Ça fait comme dans les films, on a l'impression que ça peut pas se passer. Vraiment, tout est dévasté, il n'y a plus rien, quoi. Une catastrophe.
Catastrophe, l'apocalypse à la une du journal L'Orient le Jour. Beyrouth ravagée, au moins 78 morts et près de 4000 blessés dans deux explosions. Onde de choc gigantesque à travers la ville, témoignages et les derniers éléments dans un instant. Les Bouches-du-Rhône, vous le disiez, en proie aux flammes, 2700 personnes évacuées près de Martigues. L'incendie continue de progresser, attisé par le Mistral.
Les habitations touchées sont en cours de recensement. Il n'est pas exclu qu'il y en ait certaines d'entre elles qui étaient endommagées par les fumées et les flammes.
Dans ce journal également, on va se poser 3 minutes pour faire le point en détail sur les chiffres de la résurgence du coronavirus. On se penche sur les géants du tourisme, contraints à d'importants plans sociaux en raison de la crise. À l'inverse, la filière camping-car profite de cet été pas comme les autres. Et puis pour ses 25 ans, le film La Haine ressort dans les salles. On est retourné là où tout a commencé, dans la cité de la Noé.
C'est une fierté de vivre à Chantelouvigne, de savoir qu'il y a un film qui a été tourné ici. On a laissé une bonne trace à Chantelouvigne grâce à ce film.
Votre invité à 7h40, Sébastien.
Un témoignage depuis Beyrouth. Quel visage dans la capitale libanaise ce matin, capitale meurtrie. J'appelle à 7h40 le président du Rassemblement des chefs d'entreprise libanais. Avant cela, l'édito éco, le nombre d'auto-entrepreneurs qui risquent bien d'exploser avec la hausse du chômage et votre rendez-vous santé. Attention aux coups de soleil, mais aussi aux allergies. Tous les conseils avec le docteur Jimmy Mohamed. Bon réveil à vous tous, il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un premier incendie, un panache de fumée et une détonation gigantesque qui fait penser à un champignon atomique. Vous avez certainement vu ces images sidérantes de la double explosion qui a soufflé Beyrouth hier en fin d'après-midi. 78 morts ce matin. L'onde de choc partie du port a dévasté tous les quartiers de la capitale libanaise. Je vous propose d'écouter avant toute chose ce témoignage Sophie, expatriée, qui vit à Beyrouth depuis 2 ans.
J'ai pas réussi à dormir parce que j'étais toujours paniquée et choquée de ce qui s'était passé. De réaliser que moi et enfin mes collègues, on a été super chanceux de pas être sur place. Que quand on voit les images de notre bâtiment, il y a vraiment plus rien et tout a explosé partout, même les plafonds. Enfin, c'est une catastrophe. Et de chez moi, mon bâtiment, il a tremblé comme pas possible. Je paniquais. Il y a toutes les vitres qui ont explosé. Mon mari était pas à la maison, donc là d'un coup, quand j'ai senti et que j'étais là, je me dis mais il est où? C'est pas possible. J'essayais de l'appeler, les lignes étaient saturées. Je me suis dit c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tout de suite on pense au pire et on n'arrive pas à se calmer. Je suis fille unique, du coup ma mère s'est inquiétée. Elle commence à appeler. Elle a pris de panique. Elle a dit non. Enfin, je t'avais dit qu'il fallait quitter. Pas rester. Enfin, ça fait comme dans les films, on a l'impression que ça peut pas se passer. Ça va être compliqué de se relever, je pense, pour la ville après ça, puisque vraiment tout est dévasté, il n'y a plus rien, quoi.
Le témoignage d'une rescapée de l'explosion à Beyrouth, recueilli ce matin par Johanna Chabas pour Europe 1. Nous allons rejoindre Clotilde Mravko, vous êtes la correspondante d'Europe 1 au Proche-Orient. Explosion accidentelle sur ce matin, les autorités libanaises. Et pendant ce temps, les secours, eux, ont continué de s'activer toute la nuit.
Oui, un balai incessant d'ambulances a tourné toute la nuit pour essayer de chercher des blessés encore coincés sous les décombres. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés par l'explosion, sont saturés et les autorités ont appelé les Libanais à venir massivement donner leur sang. Les médecins sont parfois obligés de soigner directement les patients dans la rue. Les quartiers du centre de Beyrouth ressemblent désormais à des scènes de guerre. Le souffle des deux explosions a tout emporté sur son passage. Vitres brisées, voitures retournées, appartements dévastés, certains bâtiments se sont même effondrés. Il est parfois difficile de marcher dans les rues tant le sol est recouvert de débris de verre et de morceaux d'immeubles. Les habitants errent dans ce chaos, hagards, incapables de reconnaître leur propre ville. Beyrouth est désormais sinistrée à terre. Les autorités ont déclaré une journée de deuil national et l'aide continue d'affluer du monde entier pour faire face à cette nouvelle catastrophe. Le Qatar et l'Irak ont promis d'envoyer 3 hôpitaux de campagne et le gouvernement libanais devrait déclarer l'état d'urgence dans la capitale dans la journée.
Clotilde Mravko, correspondante d'Europe 1 au Proche-Orient, merci à vous. Ce sont donc 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un composant de base pour engrais agricoles qui ont explosé, des substances confisquées qui étaient entreposées depuis 6 ans dans le port de Beyrouth. Emmanuel Duteil.
Oui, le nitrate d'ammonium, c'est cette substance qui était déjà à l'origine du drame de l'usine d'AZF près de Toulouse. C'est une substance dangereuse quand elle est à proximité, notamment de produits inflammables. Là, selon le gouvernement, cette cargaison était stockée depuis des années sans mesure de précaution. Imaginez, à l'époque d'AZF, 300 tonnes avaient explosé. Là, on parle de quasiment 10 fois plus. C'est ce qui explique l'ampleur des dégâts selon Michael Bernier. Il est lieutenant-colonel à la sécurité civile et spécialiste des explosions en milieu industriel.
C'est un quart d'explosion avec une telle chaleur qu'il n'y a plus rien. Il faut être très clair, il n'y a strictement plus rien dans les 150 premiers mètres. Et ensuite, on va commencer à avoir, petit à petit, ça va descendre en dégâts, mais on va avoir des gens qui vont avoir été blastés. Il y a des gens qui vont avoir pris des objets, il y a des gens qui vont être brûlés, il y a des gens qui vont ne plus l'entendre parce qu'ils vont avoir les oreilles qui ont été percées, les tympans percés, avec ce genre de choses. Vous avez des immeubles qui risquent de s'effondrer encore et avec des conséquences humaines qui doivent être monstrueuses, quoi.
Alors imaginez, les explosions ont été si puissantes qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique comme un séisme de magnitude 3,3. Le souffle a été ressenti jusque sur l'île de Chypre à plus de 200 km de là.
Les précisions d'Emmanuel Duteil et plusieurs pays dont la France annonce leur aide, un détachement de la sécurité civile ainsi que des urgentistes français et plusieurs tonnes de matériel sanitaire sont en cours d'acheminement. C'est ce qu'a tweeté dans la nuit Emmanuel Macron.
Europe 1, 7h06.
En France, c'est un nouvel incendie qui préoccupe ce matin 1200 hectares partis en fumée près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône et de grandes difficultés à opérer pour les pompiers.
Le vent a soufflé en rafale jusqu'à 90 km/h cette nuit, ce qui a fait avancer le feu à toute vitesse. 2700 personnes, dont des touristes qui se trouvaient dans des campings, ont dû être mis à l'abri pour la nuit dans des gymnases. Écoutez le capitaine Stéphane Guyot des pompiers des Bouches-du-Rhône.
Ce matin, on est face à une situation qui évolue plutôt favorablement, notamment dû au fait que le vent a commencé à tomber, qui devrait continuer à faiblir. Et par l'action des sapeurs-pompiers sur le terrain, 1800 sapeurs-pompiers, pour rappel, qui sont restés cette nuit de lutter d'arrache-pied pour éviter que le feu ne s'écarte, la situation est stabilisée. Sur le feu de Martigues, 1025 hectares ont été parcourus par les flammes, 2700 évacués, des gens principalement qui étaient situés dans des campings, qui se sont protégés sur la plage. Une partie d'entre eux ont été évacués par bateau, une autre partie par des moyens qui étaient mis à disposition par les mairies de Saussée, de Carie et de Martigues pour être acheminés dans des gymnases. Des habitations touchées sont en cours de recensement. Il n'est pas exclu qu'il y en ait certaines d'entre elles qui étaient endommagées par les fumées et les flammes.
Le capitaine Stéphane Guyot des pompiers des Bouches-du-Rhône il y a quelques instants avec Stéphane Frangy qu'on retrouvera sur place en direct tout à l'heure à 8h.
On en vient à l'épidémie de coronavirus. 21 nouveaux malades en réanimation. La hausse est toujours légère mais la tendance se confirme. La circulation du virus continue de s'accélérer dans l'Hexagone.
Nous pouvons basculer à tout moment dans une reprise incontrôlée de l'épidémie, alertait hier le Conseil scientifique. La mairie de Paris veut rendre le masque obligatoire d'ici la fin de la semaine dans certaines zones. On va se poser 3 minutes ce matin pour vraiment faire le point et prendre un peu de recul sur ces chiffres avec vous. Victor Dolande, bonjour.
Bonjour.
Ça fait plusieurs jours déjà que les autorités préviennent qu'on n'est plus sur la bonne voie. Tous les indicateurs sont vraiment à la hausse.
Oui, le virus circule de façon plus active depuis un peu plus d'une semaine sur tout le territoire. C'était à prévoir, m'a confié un modélisateur de données épidémiques. Avec le déconfinement, les vacances, les gens qui se croisent, il est normal que le virus circule davantage. Et cela se traduit dans les chiffres. Alors que le nombre de personnes admises en réanimation ne faisait que baisser depuis le 9 avril dernier, la courbe s'est inversée le week-end dernier. Autre indicateur suivi comme le lait sur le feu par les épidémiologistes, le taux de reproduction du coronavirus, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade contamine. Au moment du déconfinement, il était de 0,7. Il est aujourd'hui proche de 1,4. Même tendance pour le nombre de nouveaux cas, plus 54% la semaine dernière. La barre des 1000 contaminations par jour a été franchie mercredi dernier et depuis, il n'y a pas un jour où ce seuil n'est pas dépassé.
Voilà, des chiffres qui repartent à la hausse, Victor, mais il faut quand même relativiser.
Oui, si on prend les chiffres des personnes hospitalisées en réanimation, un infectiologue de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière me disait qu'ils avaient actuellement 5 patients dans ce service, contre 2 la semaine dernière. Donc oui, la tendance est bien à la hausse, il l'observe concrètement, mais il rappelle qu'au plus fort de la crise dans cet hôpital parisien, ils ont eu jusqu'à 120 patients en réanimation. Au niveau national, 390 personnes sont dans un état grave dans toute la France, contre 7000 le 9 avril dernier, soit 18 fois moins. Quand on demande un terme pour qualifier la période actuelle que nous traversons, plusieurs épidémiologistes ont la même réponse. C'est un frémissement, mais un frémissement qu'il faut surveiller.
On est donc, Victor, dans une situation contrôlée mais fragile, pour reprendre aussi les termes hier du Conseil scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une deuxième vague ou en tout cas pour mieux la prévenir ?
Le maître mot, c'est l'anticipation. Lors de la première vague, on a été pris de court, m'expliquait encore hier un spécialiste des maladies infectieuses. On manquait de tout, de masques, de tests, et on n'avait aucune information ou presque sur le virus. Aujourd'hui, ce n'est pas la même situation, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs et anticiper davantage. Le conseil scientifique demande aux autorités des plans de prévention, axés notamment sur les 20 plus grandes métropoles. Le port du masque et les gestes barrières, il faut les marteler encore et encore selon les spécialistes pour que ça devienne un réflexe pour les Français. Enfin, le conseil scientifique déplore des lenteurs dans la stratégie de dépistage. Il préconise de mobiliser plus de préleveurs pour tester plus. Mais selon nos informations, il faudra d'abord régler un problème. Certains laboratoires manquent en effet de gants pour pratiquer ces tests.
Voilà, du recul et du temps pour comprendre. Merci Victor Delande.
Et on va revenir sur toutes ces questions et ces interrogations tout à l'heure à 8h15 avec mon invité, le professeur Didier Pittet. Il préside une mission d'évaluation justement chargée d'examiner la réponse française face au virus. Il répondra donc à toutes ces questions sur les masques, les tests et la stratégie en France.
Une bonne nouvelle pour le secteur de la culture. Les festivals, spectacles ou concerts de plus de 5000 personnes pourront à nouveau être autorisées sous condition à partir du 15 août, annonce hier soir du ministère de la Culture.
Il est 7h12, la suite du journal sur Europe 1, Théo Manval, Sébastien Krebs.
En Italie, après l'inauguration en grande pompe par les autorités lundi, ça y est, les premiers véhicules ont pu emprunter le tout nouveau pont de Gênes pour la première fois hier soir.
On se souvient de cette image du dernier poids lourd arrêté juste avant la chute du tablier du pont Morandi le 14 août 2018. Cette nuit, ce sont des dizaines de voitures qui ont franchi le nouvel ouvrage dans un concert de klaxon. Marion Gauthier est notre envoyée spéciale.
Des dizaines de voitures ont attendu jusqu'à la nuit pour traverser ce nouveau trait d'union entre les deux versants de la vallée Polcevera. Un kilomètre de béton et d'acier élevé à plus de 40 mètres au-dessus du sol et qui redonne à Gênes son identité. D'y penser, Bruno frissonne, il était parmi les premiers à rouler sur l'asphalte neuf.
Ce pont, c'est comme une source pour nous. Sans ce pont-là, la ville était morte. La région de la Ligurie était morte. C'est une artère unique où il y a de la vie.
Bientôt, le vrombissement des moteurs aura remplacé les marteaux-piqueurs du chantier. Gênes, un des principaux ports italiens, n'étouffera plus sous les embouteillages. C'est ce qu'espère Assad. Il habite Certosa, un quartier situé sous le viaduc depuis plus de 40 ans.
Nous avons beaucoup souffert. Au lieu de faire 2 km, on devait faire 10 km. Alors c'est bon de voir ce pont aujourd'hui. La vie doit continuer.
Depuis le San Giorgio, aujourd'hui, 43 lampadaires illuminent la ville. Hommage aux 43 victimes emportées par l'effondrement du pont Morandi. Gênes, Marion Gauthier, Europe 1.
L'actualité économique à présent et le secteur du tourisme toujours à la peine hein, après la crise sanitaire, ça se confirme et désormais c'est le groupe Accor qui annonce un plan social d'ampleur.
Un licenciement à venir aussi pour le site booking.com, les leaders du secteur en grande difficulté, conséquence directe de la pandémie, Clément Le Saffre.
1000 postes supprimés dans le groupe Accor et jusqu'à un quart des 17 500 employés de Booking sur la touche, ils s'ajoutent aux 2000 suppressions d'emplois déjà annoncées chez Airbnb et aux 900 chez TripAdvisor. Partout, la raison est la même, avec le Covid-19, les gens voyagent beaucoup moins, notamment à l'international. Résultat, une perte nette d'1,5 milliard d'euros au premier semestre pour Accor. Et malgré un été moins catastrophique que prévu, il va falloir du temps pour remonter la pente, explique Vangelis Panayotis, président de MKG Consulting, cabinet spécialisé dans le tourisme.
Si on prend uniquement les hôtels en France, on sait qu'on va avoir une perte de chiffre d'affaires sur l'année 2020 de l'ordre de 40 à 70%. Forcément, tout ça a un impact sur les acteurs. Les attentes et les habitudes des consommateurs vont probablement évoluer. On voit que dans l'aérien, on va avoir un retour à la normale qui sera probablement assez long. Certains parlent de 2024. Il va falloir que les acteurs du secteur puissent s'adapter à cette nouvelle tendance.
Et au-delà de la saison estivale, la crainte se porte à présent sur la rentrée, car ce ne sont pas uniquement les vacanciers qui font vivre le secteur. Les voyages d'affaires représentent 70% du chiffre d'affaires annuel des hôtels en France. Mais avec une crise sanitaire loin d'être terminée, les professionnels sont aujourd'hui incapables de dire quand l'activité retrouvera les niveaux de 2019.
Alors il y a une filière en revanche, qui connaît un boom certain cet été, c'est celle du camping-car. Les ventes augmentent, la fréquentation des aires qui leur sont dédiées aussi le long des routes, la crise sanitaire et la peur des hôtels y est pour quelque chose. C'est bien possible, hein, Olivier Samin.
Un nombre de nuitées en hausse de 40% au mois de juillet. Voilà ce qu'a relevé Camping Car Park, l'entreprise qui exploite le plus gros réseau d'aires d'étape et de services en France. La crise sanitaire explique pour une grande part cette tendance. Faute de pouvoir partir loin, beaucoup de Français ont choisi de découvrir des régions proches de chez eux et se sont convertis à ce type de vacances itinérantes, loin des grandes concentrations touristiques. L'autre fait notable, c'est le fait que les adeptes du camping-car restent beaucoup plus longtemps au même endroit. 4 jours en moyenne contre un peu plus de 2 jours l'année dernière. Là aussi, dit Laurent Maurice, patron de Camping Car Park, la crise du Covid y est pour quelque chose.
Après un printemps extrêmement tendu, confiné, les gens ont envie de se poser, tout simplement, donc bougent moins. Et le deuxième élément vient également du fait que nous avons beaucoup de primo-utilisateurs de camping-car cet été 2020, et que ce sont des gens qui ont moins l'habitude de faire du camping-carisme, avec le choix d'une destination nouvelle tous les soirs.
Au palmarès des nuitées comptabilisées en juillet, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui arrive en tête, suivie des Pays de la Loire et de l'Occitanie. Mais d'autres régions s'illustrent par des progressions très fortes. Plus 16 points par exemple pour les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté.
Olivier Samin, valeur refuge face à la crise. L'or bat de nouveaux records sur les marchés financiers. Pour la première fois, l'once est passé cette nuit au-dessus de la barre des 2 000 $.
Enfin, voici un film qui avait fait l'événement à sa sortie il y a maintenant 25 ans. Un film coup de poing sur les tensions entre Jeanne Descartier et police. 3 Césars et le prix de la mise en scène au Festival de Cannes.
La haine de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel ressort en salle aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire. Un film que n'ont évidemment pas oublié les habitants de la cité de la Noé à Chanteloup-les-Vignes où il a été tourné. Souvenir entre amertume et une certaine fierté. Diane Berger.
Dans les rues de la cité de la Noé, Djibril pointe du doigt une barre d'immeuble.
C'est ici, 4e étage. C'était DJ Cat Killer qui mixait là. Un peu plus loin, c'était le passage de la vache. Le décor est toujours là, quoi.
Il y a 25 ans, il a été recruté comme figurant sur le tournage de La Haine. C'était un peu par hasard. Le film l'a marqué, mais il a aussi marqué la ville.
C'est Chanteloup, c'est toujours La Haine. Dès que ça va pas à Chanteloup, ils vont dire La Haine. Mais pourquoi toujours remettre sur La Haine? Il n'y a pas que La Haine.
Une image qui colle à Chanteloup, Brahima acquiesce. Ce quarantenaire a quasiment toujours vécu ici.
C'est un film, au départ, qui n'a pas fait beaucoup de bien à Chanteloup parce que ça a stigmatisé un peu les banlieues. C'est des jeunes de cité qui foutent un peu le bordel. Ça montre une mauvaise image.
Aujourd'hui, les jeunes nés après la sortie du film en sourient. Exemple avec Scheherazade, 17 ans.
Sincèrement, c'est une fierté de vivre à Chanteloup-les-Vignes, de savoir qu'il y a un film qui a été tourné ici. On a laissé une bonne trace à Chanteloup-les-Vignes grâce à ce film.
Mais elle le reconnaît, à Chanteloup, 25 ans après La Haine, les relations entre les jeunes et les policiers sont toujours parfois difficiles.
Un reportage signé Diane Berger pour Europe 1.
Et voilà pour ce journal complet signé Théo Manval. Prochain journal à 7h30 avec Sophie Tussaud.